Et c'est Nadine qui souhaite intervenir maintenant sur la libre antenne. Bonsoir Nadine.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue.
Merci, c'est très gentil.
Alors je vous écoute Nadine. Je crois que vous vouliez rendre un hommage ce soir.
Je voulais rendre effectivement un hommage à Samuel Paty. Mmh. Avant tout parce que je pense que cet enseignant était profondément amoureux, passionné de son métier.
Oui.
Plus qu'enseignant, je pense qu'il était aussi humaniste en étant au centre de son enseignement, les valeurs humaines. Et en portant sa confiance auprès de ses élèves, en les plongeant dans cette liberté d'expression qui est l'essentiel, le fondement, je dirais, du principe de liberté.
De nos valeurs,
De nos valeurs qu'on est censé enseigner, justement, à l'école.
Vous êtes enseignante vous-même ?
Alors, j'ai été enseignante, je suis à la retraite depuis quelques années. Mmh. J'ai été effectivement enseignante, donc je connais bien le problème. Bon, il est vrai que j'ai moins, à mon époque, on parlait moins de ces problèmes, cette problématique déjà de violence, ce problème de laïcité, c'était beaucoup moins porté en exergue.
Ouais, l'école était encore un peu un lieu protégé, on va dire.
Il y avait quand même des violences, des problèmes, des choses qu'il ne fallait pas dire, mais il était moins question de cette thématique vraiment sociétale qui amène à ce drame.
Il n'y a plus de limites quoi, maintenant.
C'est très difficile l'enseignement, quelque chose est un choix, c'est une passion, c'est pas un métier. Donc les limites sont souvent et doivent être respectées par les enseignants, mais pas que. Et je pense que justement ces limites ne sont pas assez respectées par les autres, les parents, la hiérarchie, il faut être, on est seul enseignant, enfin on est seul au milieu des élèves. Et si on n'a pas la confiance de tout le monde, parce qu'en général, il n'y a pas trop de problèmes avec les élèves. Bon, moi j'ai eu des grands, des moyens, des petits, donc tous âges. Mais il est vrai que la famille est conditionnée, la famille a un rôle énorme à jouer. Oui. Et elle peut être source de problèmes.
Vous avez enseigné quoi ?
Moi, j'étais professeure des écoles, donc j'ai commencé ma carrière en éducation spécialisée avec des adolescents en problème avec des troubles de comportement.
Ah oui, donc vous avez été vraiment dans les situations compliquées, là.
J'ai été plongée d'emblée, oui, tout à fait, j'ai fait les remplacements, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment plu. Quand j'étais plus jeune, donc...
Ça doit être très enrichissant, j'imagine.
Oui, tout à fait, c'est très très enrichissant.
À la fois très dur, mais très... très vrai, voilà. Instructif.
Il faut avoir la force, l'énergie, mais c'est vraiment passionnant parce que lorsqu'on arrive à gagner la confiance des élèves, de ces adolescents qui rejettent en plus la femme, j'ai appris sur le terrain et j'ai appris, oui, en tant qu'enseignante, on représentait la mère, donc on est la mère, la femme, donc on était rejeté par ces adolescents. Mmh. Donc gagner la confiance de ces élèves qui n'étaient pas forcément là à leur bonne place, mais bon, on ne savait pas trop où les mettre, donc on les mettait là et ça continue. Mais c'est quelque chose qui est fantastique.
Sacré challenge quand même. Hein.
Pardon ?
Sacré challenge quand même pour vous.
Oui, oui, mais je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ça. Mmh. C'est tout ce côté justement où on apporte, où rien n'est facile et où il faut faire des efforts de chaque jour. Et où on voit les efforts récompensés justement par ce dialogue qui se crée entre ces adolescents et puis après même les plus petits. Il faut qu'il y ait un échange, une confiance. Il faut qu'on parle le même langage. Et voilà, donc vraiment, c'est très pointilleux et c'est vraiment, ça peut être mis en danger très vite.
C'est très fragile. J'allais même dire, il faut même, avant même de parler le même langage, il faut parler tout court. Parce que ce sont des enfants, des ados qui n'ont pas appris à parler, à s'exprimer avec des mots. Il leur manque ces mots-là.
Apprendre à parler, à se faire écouter. Parce que, effectivement, tout part de l'écoute. Ouais. Après, le langage, bah, c'est écouter. Le langage, c'est plein de choses. Hein, c'est l'émotion. C'est pas forcément un langage et peut-être non dit. C'est l'expression qu'on voit dans les yeux de l'enfant, de l'adolescent. La peur, le respect, l'admiration, la confiance. Ça part de tout ça. C'est vraiment c'est très profond. Et ce sont des émotions qu'on gagne, je dirais, tous les jours. Et quand on parle de ce fameux vivre ensemble qu'on apprend à tout âge, depuis tout petit, hein, que ce soit en maternelle et toujours encore maintenant, et ça sera toujours à travailler, on part de cette cellule qu'on a créée, qui est vraiment, qui doit être unique. Mais voilà, il y a un mais.
Oui. Allô?
Oui, pardon. Ah,
J'ai cru que ça avait coupé. J'ai eu peur.
Non, c'est un petit peu l'émotion qui gagne, parce que c'est vrai que je revis certaines choses. Et puis Samuel qui était, je le sentais passionné à travers tout ce qui a été dit. C'est vrai qu'il était passionné.
Qu'il portait la bonté et l'intelligence sur son visage.
Tout à fait. C'était quelqu'un de, ça ne pouvait être que quelqu'un d'ouvert. De toute façon, je répète, c'est une passion d'enseigner, et je pense qu'il était vraiment, j'ai dû le dire, je ne sais plus, vraiment humaniste. Hein, il avait cette envie d'apporter, de donner, de partager cette liberté qui est une valeur qu'on n'a pas forcément, et d'en faire prendre conscience à ses élèves, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tout le monde ne le sait pas, parce que c'est un challenge, c'est beaucoup de patience, c'est se faire comprendre, se faire entendre, se faire respecter. Et malheureusement, le drame a montré que le respect n'est pas gagné.
Ce sont des enfants qui ne se respectent pas eux-mêmes.
Les enfants ne se respectent pas, ou ne sont pas respectés.
Ça commence par là, évidemment.
À leur famille. Toujours à la maison, bien sûr. La famille est tellement... c'est le conditionnement de l'enfant, du petit enfant qui grandit. Et c'est vrai que l'enseignant apparaît un petit peu comme un étranger à tout ça. Il faut vraiment jongler avec toutes ces valeurs, avec une approche délicate. Il faut y aller sur la pointe des pieds. C'est très dur, le métier d'enseignant. C'est très dur. J'ai dit que c'était pas un métier, mais bon, on le considère comme tel. Mais c'est vraiment très très dur. Il faut avancer. C'est un plaisir quand on y arrive. Mais
ça doit être frustrant quand on se bat contre des moulins à vent, quoi.
Tout à fait. Il faut apprendre à être frustré, ça c'est bien connu. On n'a pas toujours les moyens, on ne nous donne pas les moyens non plus.
Voilà, je pensais à ça. Est-ce que la hiérarchie vous soutient aussi ?
Non.
Et oui,
voilà. Non.
Et voilà.
Je suis ferme là-dessus, malheureusement, non. Il faut vraiment se battre contre, je ne dis pas tout le monde, mais presque. Il faut se battre, ça c'est certain. Et je comprends les jeunes professeurs qui ont des doutes. Hein, les jeunes qui voudraient intégrer ce métier, mais qui devient de plus en plus difficile compte tenu du contexte de la famille et des familles qui sont de plus en plus, qui ont des problèmes sociaux, qui ont on n'est pas qu'enseignant, on est assistant social, on doit être à l'écoute de tout et de tout le monde. Et on n'est pas souvent pas toujours du moins écouté, justement, et compris. Il y a des quiproquos qui font que qu'on arrive à des choses terribles.
Comme quoi?
Ça peut commencer par des paroles difficiles, insultantes, et puis plus. Hein, on a bien vu que des enseignants se faisaient agresser, donc c'est agressé pas forcément par les élèves, même s'ils sont grands, malheureusement par les familles, par les amis, par des par ceux qui n'ont pas compris, qui ont voulu comprendre autre chose.
Ouais. Et, je crois que c'est surtout ça. Je crois que c'est pas qu'ils n'ont pas voulu, c'est pas qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils n'ont pas eu envie de comprendre.
Je pense qu'il y a les deux, mais c'est vrai qu'il faut travailler cette aptitude à écouter et donc à comprendre, à discuter, parce qu'on est, moi j'ai passé des heures à parler, à échanger avec des parents, à essayer de les aider, à les soutenir. C'est énorme.
C'est ça, il vous faut presque éduquer les parents avant les enfants.
Tout à fait.
Sauf que ça n'est pas votre rôle et que ça doit vous prendre une énergie considérable.
Oui, et puis bon, on se demande à quel moment on peut enseigner. D'abord, il faut rééduquer, effectivement, expliquer aux parents. Mmh. À des parents qui se font, ça m'a vraiment choquée dans mes dernières années d'enseignement, des parents de maternelle qui se faisaient frapper par leurs enfants de 3 à 4 ans. C'est fou. On se dit, mais comment ça se fait? Il y a vraiment des choses à apprendre aux parents, parce que bon, on n'est pas parents, hein, bien sûr. On apprend tous les jours. Moi aussi, j'apprends. Je suis mère aussi, mais on apprend. Mais voilà, il faut savoir dire non, il faut savoir mettre des limites.
Et oui, c'est notre rôle. Alors, j'allais vous poser la question, vous avez combien d'enfants?
Alors, j'ai deux grands-enfants, l'un de 35, et un garçon de 35 et la fille de 30 ans bientôt.
Et comment ça se passe quand on est prof et qu'on a une journée épouvantable avec des ados et qu'on rentre à la maison et qu'on a les siens à gérer?
C'est dur. C'est dur. Bon, c'est vrai que les enfants, quand ils sont petits, ne comprennent pas, mais après, ils comprennent, effectivement. Ils ont participé en général, ils ont participé en même temps à se vivre ensemble dans une école, donc à se frotter à tous les problèmes, eux aussi en tant qu'élèves. Mais c'est vrai que la patience n'était plus mon fort après une journée complète d'école.
Mais à un moment donné, on doit finir par dire « je ne suis plus d'humeur là, ça va ».
Tout à fait, ouais, tout ça. À fait. Mais on n'arrête pas, hein, je veux dire, on ne ferme pas la porte de l'école comme on ferme celle d'un bureau. Ça continue encore et encore. On va faire des courses, on rencontre les enfants, enfin les élèves.
On se couche le soir, on pense encore à un des élèves.
Tout à fait.
Un problème à régler, oui, des choses comme ça.
Il y a des problèmes, problèmes, on pense il y a beaucoup de choses. Beaucoup trop de choses, et moi je trouve que l'enseignement, j'avais employé un terme, une image, était comme un millefeuille. On voulait mettre trop de couches superposées qui ont fait que l'école devient difficile à certains enfants, même aux enseignants, parce que...
Qu'est-ce que vous appelez trop de couches superposées?
Trop d'enseignements, trop de conditions, trop de choses qu'on impose, trop de programmes changés. J'ai toujours dit un pas en avant, trop en arrière. L'école est toujours...
Les réformes, les fameuses réformes qui s'enchaînent.
Toutes les réformes qui s'enchaînent, tout à fait. C'est terrible. L'enfant est au cœur de ces problèmes et on oublie l'enfant. On oublie l'enfant. L'école, c'est aussi l'enseignement, je dirais, c'est politique, malheureusement. Donc, pendant ce temps, l'enfant, il faut essayer de le préserver aussi en tant qu'enseignant. Et c'est difficile parce qu'il faut qu'on se batte un petit peu de tous les côtés. C'est vraiment dommage. Je pense qu'il faut quand même écouter les enseignants, les respecter au niveau de hiérarchique. C'est vraiment dur. Donc, l'éducation spécialisée a quelque chose de particulier, dans ce sens que c'est une autre écoute, une autre ouverture, un autre regard. Il y a beaucoup plus d'empathie, beaucoup plus de liberté, parce qu'on sait qu'on est dans un contexte difficile et qu'on a des choses difficiles à travailler. Et je pense que ce regard-là, cet esprit-là, justement, devrait être au sein de tout l'enseignement général, en tout cas.
Et à titre personnel, comment vous avez émotionnellement réagi à ce qui s'est passé avec Samuel Paty? J'imagine que ça a été un choc.
C'était un choc. Ouais. J'ai été vraiment choquée. J'ai connu la violence, mais pas... Là, c'est plus la violence, c'est la barbarie. C'est tellement...
C'est le mot, oui. Quand...
Oui, et surtout quand on a continué un petit peu à en parler, à expliquer, à découvrir ce qui s'était réellement passé. Mais quel dommage, quel drame et quel dommage. Tout ça pour, je dirais tout ça pour ça, en fait. Des mots en l'air, des mots faux, des mots rapportés, des mensonges, en fait. Hein, voilà, est-ce qu'on saura vraiment la vérité? Je ne sais pas, mais en attendant...
Le mal est fait, quoi.
Mais c'est horrible.
Quand vous horrible, dites, quand vous dites « j'ai connu la violence », c'est-à-dire c'est allé jusqu'où avec vous?
Bah, j'ai connu la violence avec ces adolescents, certains adolescents qui étaient violents, qui agressifs plus que violents, qui auraient pu être peut-être dans d'autres quartiers plus difficiles, ou auraient pu pencher vers la violence, mais l'agressivité, ce rejet, donc ce besoin de provoquer, c'était au départ des adolescents qui pouvaient monter sur les tables, qui arrivaient avec des couteaux.
Donc, ah oui, bon, quand
voilà.
Même.
Oui, quand même, oui, tout à fait. Il est vrai que dans certains quartiers, les enseignants ne sont pas protégés.
Et surtout, j'étais en train de me poser la question, est-ce que vous êtes formée psychologiquement pour gérer ce genre de choses?
Alors moi, j'ai vraiment commencé ma carrière comme ça, c'est-à-dire sur le terrain. Aucune formation,
oui, c'est ça. Voilà. Oui, rien en amont, quoi.
Non, absolument pas.
On vous pousse dans le grand bain et on regarde combien de temps vous mettez pour vous noyer.
C'est ça. Donc, et en plus, lorsqu'on fait des remplacements à l'année, bon, je dirais que c'est une chance quand même, parce que moi, j'aimais bien, mais lorsqu'on tombe dans une classe, par exemple, qui a été conditionnée, qui a été formée par l'enseignant qui était là avant, c'est pas toujours facile. Parce que tout ne... Enfin, non, c'est pas, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment difficile de s'adapter à une classe atypique. De toute façon, c'est vraiment... c'est un petit peu les... On est au bas d'échelle, et puis chaque jour, chaque semaine, chaque mois, on grimpe un échelon, un de plus, deux parfois. Mais vraiment, il y a vraiment, moi, ce côté éducation nationale, éducation pardon, spécialisée, donc m'a vraiment marqué avec par rapport à l'émotion, par rapport au résultat, par rapport à ce qui pouvait se. Je trouve pas les mots, se partager.
C'est enrichissement mutuel, finalement.
Tout à fait. Ouais. C'est un amour, je dirais, un amour innocent d'adolescent redevenu presque enfant et se sentant apprécié et qui apprécie eux-mêmes. Donc, c'est un échange, effectivement.
Mais enfin, vous êtes quand même, Nadine, quelqu'un d'exceptionnel, hein, parce que je ne suis pas sûre que beaucoup de profs aient ce discours-là et ce courage que vous avez eu, cette volonté de faire aussi bien.
Oui, mais justement, c'est ce que je dis, c'est une passion. Bon, moi, je suis vraiment attirée par cette difficulté à surmonter, même encore maintenant. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Hein. Je suis beaucoup dans l'émotion. J'ai besoin de me sentir utile. Pas forcément être justement celle qui accumule les formations et les informations aux élèves, aux parents, parce qu'on nous a... oui, c'est notre rôle, bien sûr, mais bon, c'est vrai que ce côté social ne me déplaît pas, mais il faut vraiment qu'il y ait du temps, de la confiance, de la part de la hiérarchie, je répète, de la part de l'équipe pédagogique. C'est un travail vraiment difficile et qu'il faut gagner. Une confiance qu'il faut gagner si on veut pouvoir avoir un enseignement de valeur Et là, j'ai l'impression, enfin, c'est même une certitude, qu'on a oublié complètement les valeurs. On s'intéresse plus justement aux programmes qu'aux valeurs. Je pense qu'il faut peut-être remettre les choses à leur place, commencer par la valeur, les valeurs, et puis arrivent les programmes. Bien sûr qu'il faut, il faut, on peut le dire constamment, il faut, mais il faut arriver à quelque chose.
Alors, il y a Dieu merci des écoles test où on apprend aux enfants à gérer leurs émotions, par exemple, dès les plus petites classes. On leur apprend la sophrologie, la méditation. On leur apprend à respecter l'autre. Il y a des manières différentes d'évoluer, mais c'est, pour l'instant, ce sont des tout petits cailloux sur un grand chemin. Mais ça commence à bouger quand même, je trouve.
Oui. Bon, après, il est évident que ce sont des classes qui ont peu d'effectifs. Parce que j'ai fait de la sophrologie, hein. J'ai fait pas mal de choses aussi, mais avec 30 enfants, 29-30 enfants, tous complètement différents, oui. Avec des besoins différents, avec là aussi des problèmes comportementaux. Des enfants, malheureusement, il m'est arrivé de devoir choisir entre un enfant et le reste des enfants. Quelle était la priorité? Fallait-il mettre justement mettre un petit peu de côté, laisser les autres enfants en autonomie pendant qu'il fallait s'occuper de l'enfant qui posait problème?
Ouais,
mais c'est difficile de choisir. On ne peut pas se dire je suis obligée de m'occuper de cet enfant là
et j'en ai 29 derrière qui sont en attente. Oui, c'est ça.
Oui. Et il n'y a pas les mêmes attentes. Donc c'est vrai que ce sont tous ces problèmes-là qui font que l'enseignement est très difficile.
Est-ce que vous pensez qu'il y a de moins en moins de jeunes qui cherchent à devenir prof ou ça ne change pas tellement? Il y a quand même encore des vocations.
Je pense qu'il y a de moins en moins de jeunes parce que ça fait peur. Ils ont raison. Et on n'a toujours pas les moyens. Enfin, je n'y suis plus, mais je pense, le peu que j'entends, je ne vois pas beaucoup de moyens proposés, de moyens supplémentaires, dirais-je, proposés.
J'ai l'impression que ça fait des générations qu'on entend la même chose. C'est terrifiant.
Oui, on tourne en rond. Quand je dis que c'est politique, c'est tout à fait ça.
Je ne sais plus quel homme politique avait dit à l'époque qu'il fallait faire bouger le mammouth. C'était un peu ça, l'expression.
C'est ça, oui, tout à fait.
Ben, le mammouth, j'ai l'impression qu'il n'a pas bougé beaucoup, hein.
Non, change de politique, mais on change pas de raison d'être au niveau de l'enseignement. On n'est pas. Il faudrait faire confiance quand même à ceux qui sont sur le terrain, parce qu'il y a des choses vraiment énormes, hein, qui n'ont entre la théorie et c'est bien connu, hein, et la pratique. Mais on ne fait pas assez confiance justement aux enseignants.
Alors vous avez raison, il y a une question de confiance, mais ce n'est pas le tout, non seulement faire confiance, mais de donner des moyens ensuite.
Il y a l'argent aussi.
Eh bien c'est ça, quand je parle de moyens, c'est des moyens matériels, ce n'est pas le tout d'avoir confiance en vous. C'est, si on a confiance en vous, il faut vous donner les moyens de faire ce que vous dites et ce que vous souhaitez faire. Sinon, ce ne sont que des mots, et j'ai l'impression que depuis des générations, on entend des mots.
Des mots, et puis oui, effectivement, puis lorsqu'on sait que l'enfant, de toute façon, parle de l'enfant comme un coup, c'est malheureux, mais c'est vrai. Donc l'élève, pardon, c'est pas l'enfant, c'est l'élève à ce moment-là. L'élève a un coup, donc voilà. Arrive peut-être plus tard quelques valeurs, mais on parle surtout de coup. Le coup au niveau de l'école, au niveau de l'élève, etc. Donc c'est difficile de placer au milieu de tout ça un enseignement approprié à chacun. Il faudrait être partout, avec tout le monde, de la même façon. Enfin, c'est pas possible. On a quand même nos limites.
Et puis, comme vous dites, vous parlez de 30 élèves par classe. Moi, j'ai vu des classes où il y en avait 34, 35 facilement. C'est ingérable.
Oui, tout à fait.
Et il suffit qu'il y en ait un qui pose problème pour que toute la classe déraille.
Ah, là, c'est catastrophique. Oui. Des enfants qui ont... qui sont malheureux, voire malades, qui ont quelquefois des traitements ou qui devraient en avoir, qui méritent une attention tout à fait particulière, des enfants suicidaires, il y a de tout, j'ai eu de tout. Mais comment
Comment gérer ça? Comment gérer
ça? C'est pas possible. les familles qui sont en pleurs ou en colère, il faut tout gérer. Et c'est l'enseignant n'est pas
assistante sociale.
Si on l'est, ça on le devient, on est obligé.
De fait, j'allais dire vous le devenez de fait, mais à l'origine ça ne devrait pas être le cas.
Non, on ne doit pas éduquer, on doit enseigner, c'est complètement différent. Mais il est vrai qu'on éduque plus qu'on enseigne.
Oui.
Donc on ne peut pas, à un moment donné, il y a un choix à faire. Je ne sais pas, mais il faudrait vraiment se pencher là-dessus, hein, sur cette problématique. L'enseignant, je répète, doit apprendre ces choses, apprendre des valeurs, mais pas éduquer. Éduquer, je veux dire, éduquer comme la famille doit éduquer les enfants.
Ouais. C'est là que ça a dérapé.
Les parents, certains parents ne sont. Il y a beaucoup de familles recomposées, donc tout n'est pas compris, tout n'est pas bien géré non plus. C'est vrai que tout le monde manque de temps, les parents aussi. Il y a ceux qui sont perdus, il y a plein de choses.
Il y a des parents démissionnaires, il y a des parents qui n'ont pas les capacités. Enfin, il y a mille et une raisons, ça c'est sûr. Mais il y a quand même à la base un sacré changement à mettre en place.
Tout à fait. Ah oui, c'est un travail gigantesque. Et effectivement, remet à chaque mandat.
Exactement. Et j'ai l'impression que dans 50 ans, le mammouth sera toujours à la même place.
C'est malheureux.
C'est vrai que c'est un peu décourageant.
J'ai bien peur qu'on continue comme ça, effectivement. Et ce sont quand même les élèves et les enseignants qui prennent... qui deviennent victimes.
Ouais. Nadine, l'émission va se terminer. Merci en tout cas de ce témoignage vraiment touchant, intéressant, émouvant, de cet hommage que nous en profitons pour rendre à Samuel Paty et à tous les enseignants de cette planète qui sont comme vous et qui font de leur mieux en tout cas.
Je leur souhaite vraiment un bon courage parce qu'il faut avoir du courage et de l'amour et de la patience.
Et je sais que vous en avez eu beaucoup en tout cas, Nadine. Merci de votre témoignage.
Merci beaucoup.
Bonne fin de soirée. Au revoir, Nadine.
Au revoir. Mais serait-il possible de lire mon poème hommage ?
Là, ça va être trop tard. L'émission se termine. Il me reste 20 secondes. Je ne peux plus, là. Désolée. Je suis désolée. Merci. Je vous embrasse, Nadine. Merci. C'est effectivement terminé pour ce soir. Il nous reste juste le temps de vous donner rendez-vous demain à partir de 23h pour de nouveaux échanges, de nouvelles confidences. Et je vous quitte avec la phrase du jour. Dans un couple, peut-être que l'important n'est pas de vouloir rendre l'autre heureux, c'est de se rendre heureux soi-même et d'offrir ce bonheur à l'autre. Je dédie cette phrase du jour à Karine, bien sûr. Je vous souhaite une bonne nuit, je vous embrasse et je vous dis à demain.